Bon, ben on assume qu'on est de retour. Vous écoutez Fabien la nuit. Comme une petite pause, une petite relance de bloc qui n'est pas partie, ben on est là. Jean-François Guy est avec nous. Monsieur Guy, cette semaine, on commence avec les essais routiers.
Oui.
OK. Puis le premier essai routier que tu as fait, c'est la Mazda 3, la berline. Parle-nous de la berline, s'il te plaît.
Oui, la Mazda 3 qui a été redessinée pour 2019. Puis ouais. Ben, vous allez pouvoir avoir un essai complet, ben, comme tu disais tantôt, dans le guide de l'auto 2020. Mais là, nous, on va faire un premier contact avec cette voiture-là.
Okay.
Parce que je t'avoue, Sylvain, qu'il y a plusieurs modèles. Il y a toujours la version berline.
Mm-hmm.
Il y a la version sport, qu'on appelle, la version hatchback, là, à haillons. Ouais. Que j'ai pas essayé encore. Moi, j'ai essayé la berline avec le moteur 2 litres. Parce que là, vous avez le choix entre un 4 cylindres de 2 litres de 155 chevaux ou un 2.5 litres de 186 chevaux. Une boîte manuelle, c'est rare quand même qu'il y ait des boîtes manuelles encore sur le marché, bien, vous pouvez l'obtenir avec le 2 litres, la boîte manuelle.
Mm-hmm.
Sinon, vous avez la boîte automatique, une boîte automatique à 6 rapports, alors que la plupart des concurrentes, c'est des boîtes à variation continue, les fameuses boîtes CVT que les gens aiment plus ou moins. Là, vous avez une vraie boîte automatique.
Mm-hmm.
Et vous avez cette année, ce qui est révolutionnaire dans la catégorie, c'est que vous avez le choix entre une traction avant ou une traction intégrale.
Okay.
Donc, maintenant, la Mazda 3 rentre un peu. On a parlé de la Nissan Altima la semaine dernière. Mm-hmm. La Nissan Altima, qui est une voiture intermédiaire maintenant, qui rentre en concurrence directe, ben, direct, oui, avec la Subaru Legacy.
Okay.
Mais là, la Mazda 3 peut rivaliser maintenant avec la Subaru Impreza, qui était seule dans les petites voitures compactes à traction intégrale. Mais encore une fois, comme je dis, c'est un premier contact parce que j'ai pas eu la chance d'essayer la version à traction intégrale.
Bon. Ben, parle-nous de ce que tu as essayé.
Cela dit, je vous dirais que la nouvelle Mazda 3, ben, au niveau du design, ça reprend, l'étude conceptuelle d'un modèle, d'un concept qui s'appelait le Kai.
Mm-hmm.
On sait maintenant que, tu sais, Mazda, eux, on parle de c'est le design Kodo qu'on retrouve dans la CX-5, CX-3, le nouveau CX-30 qui s'en vient. Peu importe les modèles, vous avez un véhicule concept qui a inspiré le design de toutes les voitures. Dans ce cas-ci, c'est le concept Kai. Et au niveau des dimensions, la voiture est plus grande qu'elle était, donc est plus spacieuse, soit autant pour les passagers avant que les passagers arrière. Le coffre aussi est assez de bonne dimension. Au niveau du design, je me répète, c'est une très belle voiture.
Mais la Mazda 3, là, est-ce qu'on peut employer le mot, c'est un classique, généralement. Oui. Là,
surtout au Québec.
Bon, c'est ça. Quand on va vers la Mazda 3, c'est comme aller vers la Toyota Corolla, toute proportion gardée, on s'entend, là. Mais c'est-à-dire que quand tu choisis ça, c'est que tu choisis l'option sans trouble. le premier groupe d'options, c'est pas de trouble. Après ça, on pense à l'équiper. Non, ben, c'est parce que c'est des autos qui sont précédées par des réputations de fiabilité, de solidité. C'est pas nécessairement les autos les plus sexy au monde, mais...
Ben,
la Mazda, par exemple.
C'est assez sexy.
Oui, c'est ça.
Sexy.
C'est plus sexy que la Corolla.
C'est sûr qu'au niveau de la Corolla, de la 2020 aussi, est très belle.
Bon, ben, coudonc.
Mais parce que dans le créneau, hein, c'est tellement compétitif que les manufacturiers, maintenant, vont remodeler, renouveler, redessiner leurs véhicules à toutes les 3-4 ans, des fois 5 ans, mm-hmm. mais ça, c'est assez rare. Au niveau de la fiabilité, c'est important que tu l'abordes parce que c'est sûr que la Mazda 3, on s'entend, là, Faut rendre à César ce qui appartient à César. La Corolla et la Civic, disons que sont un petit peu plus fiables que la Mazda 3. Par contre, la Mazda 3, au niveau du design, est dans une classe à part, moi je pense, surtout à la nouvelle génération. Et au niveau de la garantie, parce que c'est 3 ans, kilométrage est limité.
Ouais.
Ça, c'est assez... Tu sais, quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage...
Oui, c'est quelqu'un qui sert de sa voiture là pour travailler.
Ouais, tu sais, on a eu des appels, je pense, à la semaine dernière. Le monsieur disait qu'il faisait 60 000 kilomètres par année. Dans son cas, ça serait intéressant là qu'il y ait une voiture comme celle-là.
Clairement.
Ouais.
Oui, non, parce que ça vient de me revenir. Oui, ce gars-là, il dormait dans son auto, en roulant, d'ailleurs.
Pratiquement, il disait qu'il faisait combien de kilomètres d'une journée?
Ah, je ne sais pas, mais c'était hallucinant. Là. Il faisait Montréal-Gaspé le jour.
Sur le matin.
Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas.
Puis au niveau du tableau de bord, bon, c'est sûr que... Moi, je vous dirais là que c'est un véhicule... La voiture, là, par rapport à la génération précédente, tu sais... avant, on disait qu'une Mazda 3, tu sais, le slogan de Mazda, c'est vroom vroom, hein?
Oui.
Bon. Là, je vous dirais, le châssis, c'est sûr qu'il est plus rigide, tout ça, mais moi, la version, en tout cas, que j'ai essayée, moteur 2 litres, transmission automatique, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins sportive que la génération précédente.
Mm-hmm.
Par contre, je vous dirais qu'elle est plus confortable, mieux insonorisée, plus spacieuse. Donc, pour la conduite de tous les jours, là, c'est intéressant. Je vous dirais aussi que le tableau de bord a été redessiné, réaménagé. Puis ce qui est intéressant dans le cas de Mazda, c'est que, comme les marques de luxe, je pense à Audi, BMW, Mercedes, vous avez une espèce de petite molette, molette même dans le modèle d'entrée de gamme, au niveau de la console centrale. Puis ça, ça permet de faire d'activer, en tout cas de faire défiler le menu des accessoires, pas l'instrumentation, mais des commandes, des différents dispositifs, que ce soit la ventilation, la radio, tout ça, une espèce de petit écran, qui est rivé, qui est boulonné, si on veut, okay, là, dans le tableau de bord. C'est ça.
Donc, voilà. On a fait le tour pour t'as-tu une note à donner là-dessus? Mettons que je te demande une note sur
8.5 sur 10.
Parfait. OK. La Ford Mustang Cabriolet. Là, on embarque. Là, c'est ma fête s'en vient. Si tu voulais avoir des suggestions pour m'offrir un cadeau. La Ford Mustang Cabriolet. Parle-moi de ça.
Ben, cette voiture-là va fête ses 5 ans, son 55e anniversaire cette année.
À peine plus jeune que moi.
Donc, c'est une voiture, c'est la voiture sport, je vous dirais, la plus vendue au monde.
Mm-hmm.
Jusqu'à maintenant, il y a au-delà de 10 millions de voitures qui ont été fabriquées par Ford depuis 1964. Et là, pour 2020, ben là, il y a la version ultime de la Mustang qui s'en vient. C'est une nouvelle Shelby GT500 avec un moteur V8 5.2 litres. Imagine-toi qu'il est sans turbo, là, sans compresseur, qui va développer 760 chevaux.
Aïe aïe.
Ça, là, c'est vraiment la course à la puissance.
Oui.
Mais c'est pas de celle-là qu'on va parler ce soir. On va parler plutôt de la voiture d'entrée de gamme avec le 4 cylindres EcoBoost, un moteur 2,3 litres, moteur turbo. Moteur qui développe 310 chevaux. C'est quand même, c'est quand même intéressant comme puissance. Et puis, vous avez aussi, pour 2020, un nouvel ensemble de haute performance qui va augmenter la puissance là à 330 chevaux. Et l'apparence de la voiture avec le moteur EcoBoost va ressembler à la GT.
Okay.
La GT, ça, c'est quand vous avez opté pour le moteur V8 5 litres qui développe 460 chevaux. Vous pouvez opter aussi pour la version Bolide.
On n'est quand même pas à pied là-dedans. Là.
Pas vraiment. Puis t'as la version Bolide, tu sais, le fameux film Bolide.
Oui, avec Steve McQueen.
Avec Steve McQueen, ben c'est, dans ce cas-là, le moteur développe 480 chevaux. Là, je vous dis ça parce qu'il y a des amateurs de Mustang qui aiment beaucoup qu'on entende parler de puissance. Et vous avez toujours aussi la GT350. À ce moment-là, le moteur V8 de 5.2 litres, et non pas 5 litres dans ce cas-ci, développe 526 chevaux.
Ben, c'est, oui, c'est...
C'est quand même...
Elle est musclée, la Mustang?
Pas à peu près. et pour cette année, vous avez toujours la boîte manuelle, qui est un classique, boîte manuelle à 6 vitesses, mais vous avez maintenant une boîte automatique à 10 rapports.
OK.
Ça, cette transmission-là peut être jumelée avec le 4 cylindres turbo ou le V8 5 litres. Donc, je vous dirais, c'est sûr que ça permet de réduire la consommation de carburant. Surtout quand on fait sur l'autoroute à haute vitesse. Là, on s'entend toujours à des vitesses raisonnables. Là, c'est 100 km/h ces autoroutes. Mais autrefois, là, c'était quand même une transmission à 6 vitesses. Donc, c'est un gros changement de transmission à 10 rapports. Cela dit, bon, ça demeure un
classique. Cela dit.
Hein?
Viens pas péter ma balloune. Cela dit.
Ben, je ne pèterai pas ta balloune, bon, parce que dans toutes les voitures, dans les pony cars, là, dans les muscle cars américains, si on pense à la Challenger, la Camaro et la Mustang, je vous dirais, c'est la voiture la mieux équilibrée, la plus équilibrée entre les trois.
OK.
Tu sais, la Camaro, elle est moins grande, elle est plus petite qu'elle était, elle a perdu du poids, sauf qu'elle est moins logeable, je pense, moi, selon le gabarit de chacun, là, pour s'installer au volant. Elle est agile, par contre, la Camaro. Mais je pense que la Mustang est aussi agile. Et en plus, vous avez quand même des choix de motorisation assez intéressants là, par rapport à notamment la Challenger. C'est sûr que la Challenger, c'est une grosse voiture qui est beaucoup plus lourde, qui est confortable, mais on s'entend que sur un circuit, Hein, si on s'en va, si on va sur un circuit privé, on va à Icar ou on va ailleurs, c'est sûr que la Mustang va avoir quand même plus d'aisance, va avoir des meilleurs temps au chronomètre pour faire un tour de piste que la Challenger qui est beaucoup plus lourde dans les courbes, tout ça, c'est différent. C'est sûr que sur une ligne droite, la Challenger, c'est extrêmement rapide. Mais cela dit, la plus homogène, moi je vous dirais, c'est vraiment la Ford Mustang.
Oui.
Oui. Et puis la version cabriolet, on s'entend, c'est l'été, c'est... T'écoutes du Elvis.
Oui, oui, oui.
Et puis, du Elvis Presley, là.
Ben oui, non, du Elvis Presley, oui, pas du Elvis Gratton. Oui. Alors, je m'imagine très bien sur le bord de la route 1, tu sais, en Californie, là.
Oui.
Oui, sur le bord de falaise, comme ça, là. Il me semble que je m'imaginerais bien, là, à cette heure-ci, ben, peut-être pas à cette heure-ci, peut-être demain matin, là, mais il me semble que, ouais, avec la Mustang, mais ça doit coûter une palette, cette histoire-là. Ça doit pas être donné.
Ben, tu vois, j'ai pas pris les, tu vois, c'est le seul modèle que j'ai pas pris les prix en note.
Ben, par contre, j'ai trouvé ça, j'ai le guide de l'étau 2020.
Ça commence à 29 000.
Ouais.
Ça, c'est pour le modèle coupé. Et puis, ça peut aller jusqu'à facilement, là, avec la nouvelle version Shelby GT500.
Mm-hmm.
Là, ça va frôler les 100 000 $ à ce moment-là.
Yee.
Mais je vous dirais, moi, vous pouvez quand même avoir un modèle cabriolet pour aux alentours de 40 000 $ avec un bon équipement. Puis, si on regarde les rivales de la Mustang, qui sont peu nombreuses, on pense à la Chevrolet Camaro, parce que la Challenger n'a pas de version décapotable.
Oui.
Mais on pourrait peut-être aussi regarder du côté des voitures allemandes. Je pense à la Audi A5, BMW Série 4. Il y en a qui vont dire, oh non, non, crime de lèse-majesté. C'est des voitures allemandes. Oui, sauf que au niveau du prix, les voitures américaines sont moins chères.
Mm-hmm.
C'est sûr, vous n'aurez pas à traction intégrale. C'est une voiture à propulsion, comparativement aux voitures allemandes.
Oui.
Mais cela dit, c'est quand même des coupés, deux portes.
Eh bien voilà, ben pour les prix, ça part de 30 699 pour l'EcoBoost coupé. Mais pour la Shelby, on monte à 85 006.
C'est l'argent.
C'est ça. Faut
ramasser... Plus les options, plus les taxes.
Faut ramasser nos sous. Ben, faut commencer tout de suite. Ben, on peut commencer pendant les deux prochaines minutes. Ça tombe bien, on est en pause.
Bon.
Ça fait que dans deux minutes, on reprend la chronique automobile. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler. Hein? Jean-François va répondre à vos questions. 514-790-0224, région de Montréal, partout au Québec, 1-800-667-5241. Vous écoutez, Fabien la nuit.